La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Après une fin d'année marquée par une belle victoire à Ambry, 2026 a commencé difficilement pour le HC Ajoie. L'équipe jurassienne a perdu ses trois premières rencontres, ne glanant qu'un point. Son infirmerie est à nouveau garnie de nombreux éléments, parmi lesquels des joueurs clés. On revient aujourd'hui sur les dernières sorties du HCA. On évoquera justement ses nombreux blessés et la façon d'y remédier. Et puis on se projettera sur les prochaines sorties des Vouivres lors de la suite de ce mois de janvier des plus intenses. Un moment que nous partagerons avec le défenseur français du HCA, Thomas Thierry.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de l'année, l'occasion encore de vous adresser tous mes vœux pour la nouvelle année et de vous remercier pour votre fidélité. Salut Yann, salut Rafi, tous mes vœux à vous également.
Bonne année à tout le monde, ciao ciao.
Salut Michel, bonne année à tout le monde.
Et on salue aujourd'hui également Thomas Thierry, salut Thomas.
Salut, salut tout le monde.
Tous nos vœux, je pense qu'on peut tous s'associer à
oui,
toi aussi.
Oui, c'est gentil, merci, pareillement.
Et merci surtout d'avoir remplacé au pied levé Johnny Hazen, qui devait être notre invité cette semaine. Il a un petit accro à l'entraînement apparemment, que tu peux peut-être nous raconter.
Oui, bon, ça fait partie du jeu, ça peut arriver à l'entraînement aussi. Voilà, il a un petit bobo qu'il a dû faire soigner, mais c'est un grand garçon, il est costaud, il va vite s'en remettre.
Sur le grill. Sur ta fiche signalétique, toujours en maintenant en T1. Sur le sud du HCA Ajoie ou même de l'Ice Prospect, tu fais 102 kilos. C'est toujours d'actualité après ces repas de fin d'année.
Ouais, j'ai évité de regarder, quoi. On ferme les yeux, quoi. Mais,
alors, sur le site de l'équipe de France, ils t'ont mis 104, hein, si jamais.
Ouais, ça varie selon tous les différents sites. Ça varie. Il y a quelques mois, j'étais à 106. Après, j'ai chuté à 100, quoi.
Oh, t'es long, hein, comme ça. C'est comme si Rafi changeait de 6 kilos.
Ah ouais.
Ouais, vu sa taille, mais...
D'ailleurs, comment ça se passe, ces kilos? C'est une bonne question, hein, sur les sites, sur ces sites spécialisés. Qui décide du poids? Vous donnez une fois votre poids ou bien ça se fait au début de saison? Comment on communique son poids pour toute sa carrière? Parce qu'en principe, quand on donne un poids, on l'a pour toute sa carrière.
On ne le met pas à jour, et c'est vrai.
Après, les poids peuvent varier aussi selon le choix de performance du joueur. Donc, si un joueur a besoin d'être plus physique et de prendre de la masse musculaire, bah là, son poids va augmenter. Si un joueur justement a besoin de se sent trop lourd sur la glace et a besoin d'être plus léger, bah il va faire en sorte de perdre du poids. Les blessures aussi peuvent varier, peuvent faire varier le poids. Depuis que ma blessure au mois d'avril il y a quelques mois, bah j'ai perdu 6 kilos. Donc c'est pas la même alimentation, c'est pas non plus le même effort. Et qui donne les poids? Bah c'est une bonne question. D'après ce que je pense, on a en début d'année donc des tests physiques. Donc, bien sûr, on va prendre la taille, on va prendre le poids, on va faire des mesures corporelles. Tout ça, c'est envoyé à notre préparateur physique et aussi à notre staff médical. Et puis, les clubs demandent justement pour faire les petites cartes, là, poids, taille. Donc, bah, c'est comme ça que ça sort et que les infos suivent.
Tu es né en Île-de-France, dans les Yvelines. Je pense que maintenant, depuis le temps que tu as joué, tout le monde le sait. Tes surnoms, c'est plutôt Titi, c'est ça?
Titi, exactement.
Ouais. Titi parisien, non? Parce que t'es parti assez vite de l'Île-de-France.
J'ai vécu un an, de mes 0 à 1 an. Ouais. J'ai pas vraiment de souvenirs. Donc je suis plus annécien, Haute-Savoie, montagnard. Puis comme on dit, hein, un fils adoptif peut aimer sa mère autant qu'un fils légitime. Donc je me considère plus comme haut-savoyard, montagnard que parisien, ouais.
Puis ben c'est là que tu as découvert le hockey. Tu as commencé à quel âge le hockey à Annecy?
Vers les 5 ans, à peu près, ouais, 5 ans.
Et puis tu as été assez vite un talent précoce, on va dire. Parce qu'à 12 ans, tu as quitté déjà Annecy?
Exactement, oui. À 12 ans, donc à l'époque, on faisait pendant l'été, avec un groupe d'amis, de joueurs annéciens, on faisait des stages d'été, des camps d'été en Suisse. Donc on avait le choix entre la vallée de Joux ou on avait le choix aussi Verbier. Et ça va être drôle de le citer, mais un des responsables d'un des camps de la vallée de Joux, s'appelle
Gary Sheehan.
Gary Sheehan, exactement. Et puis à l'époque, il était entraîneur de Mérin, il me semble. Et puis la semaine s'était très bien passée. Et puis il en a parlé à mes parents. Il disait, ce serait bien qu'ils viennent à Mérin faire des sélections. Puis mes parents, ils ont fait le lien en disant « Mérin, ouais, c'est bien, mais à côté, il y a la grosse écurie Genève, donc pourquoi pas directement essayer Genève. Puis un jour, on était sur la route pour aller à l'entraînement et j'ai dit « Maman, c'est pas la route pour la patinoire d'Annecy, ça ?» Elle dit « Ouais, t'inquiète. » Puis au loin, je vois un grand lac et je vois un gîte où je dis « Maman, ça ressemble à Genève, ça ?»« Ouais, ouais, bah allez, tiens, va t'amuser là-bas. » Puis j'ai passé une semaine à m'entraîner. Et puis là, même là, le niveau, l'encadrement, l'organisation, c'était impressionnant. Quoi. Moi, j'étais « Waouh, c'est énorme. » Et à la fin de cette semaine, un monsieur est venu me serrer la main et m'a dit « Bienvenue. » Bon, bah, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais depuis ce jour-là, bah, voilà, j'ai évolué en Suisse.
Ouais, puis t'avais 12 ans à l'époque, donc, puis t'as directement joué avec les U15 hein, de Genève, si mes infos sont correctes.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait quelques mois. Alors, tout ce qui est U12, U13, ouais, j'en ai aucune idée. Nous, c'était Mosquito, Mini, Novice. C'est juste, ouais. Mais j'ai fait quelques mois, du coup, avec les Mosquito Top. Et vers Noël, ils m'ont appelé pour rejoindre les mini-tops. Donc c'était, ouais, ça doit être ça, U15, exactement.
Puis ça se passe comment à 12 ans justement, t'habitais à Annecy. Géographie, j'ai pas GPS dans la tête. Je pense qu'il y a quand même pas mal de routes entre les deux, entre Genève et Annecy.
Alors depuis le pas de la porte de notre maison jusqu'à la patinoire, il fallait compter entre 30 et 45 minutes de voiture.
Puis là, donc, pendant ces années-là, tu étais junior, et puis bah, tu habitais encore chez tes parents à Annecy.
Donc, j'habitais chez mes parents à Annecy. Je faisais mes études à Annecy. Hein, donc, tout ce qui est collège, lycée, j'ai passé mon baccalauréat français donc à Annecy. Et mes parents m'ont conduit pendant 6 ans, parce que mes 2 dernières années à Genève, j'ai vécu là-bas en famille d'accueil. Donc pendant 6 ans, mes parents m'ont conduit tous les jours à la patinoire pour l'entraînement. Donc je les remercierai jamais assez pour ça, parce qu'ils ont quand même fait un énorme sacrifice pour moi. Et c'était le deal. Donc on a passé un marché ensemble. Ils ont dit, écoute, tant que tu performes sur la glace à Genève et tant que tu as des bonnes notes à l'école, on accepte de te conduire à la patinoire le matin, le soir et les week-ends pour les compétitions.
Je crois qu'ils ont fait un bon investissement. Je pense qu'ils ne regrettent pas tous les sacrifices qu'ils ont fait pour toi. Ils auront la chance de venir te voir aux Jeux Olympiques, certainement. Ils vont être assez fiers de leur fiston. Sinon, j'ai lu aussi que tu étais attaquant dans ta prime jeunesse. Tu te souviens quand tu as passé d'attaquant à défenseur?
Bien sûr. Ah bah ça remonte, hein, dis donc. On va chercher dans les souvenirs. Oui, ah bah avant j'étais attaquant, quoi. Bah bien sûr, hein, quand on est gamin, on veut tous aller marquer des buts et puis on fait ces petits tournois là, 3 contre 3 dans les zones réduites. Donc bah j'étais attaquant par défaut. Puis on a fait avec Annecy un tournoi Pee-wee, donc au Canada, en région de Québec. Bah le fameux tournoi Pee-wee, sauf que nous on était à Bernière.
Ouais, le donc deuxième
c'est
tournoi,
exactement, exactement le deuxième. Et puis là-bas, on avait donc, quand on s'équipait pour les entraînements, les matchs, il y avait tous nos sacs alignés. Donc d'un côté les attaquants et de l'autre côté les défenseurs. Et puis un jour avant le match, j'arrive, je trouve pas mon sac chez les attaquants. Puis je vois le coach, je dis « Coach, je sais pas mes affaires. » Il dit « Si, va voir chez les défenseurs. » Et puis je vais le citer parce que voilà, c'est... C'est un ami maintenant qui m'a coaché puis qui m'a permis justement de faire cette transition, Davy Rachex. Et il a vu en moi que je serais plus efficace et performant en défense et que j'avais, c'est vrai, plus ce côté, cette mentalité défensive. Donc, en plein milieu du tournoi, bah, j'ai switché à attaquant défense et puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis depuis, bah, voilà, je patine en marche arrière.
T'as fait après, bah voilà, tout est junior à Genève, on l'a dit, t'as fini en U20 comme capitaine, il me semble, la dernière année. Puis après, le grand saut dans le monde professionnel, il se passe du côté de Zoug. Comment ça s'est passé, c'est arrivé, comment t'es passé de Genève à Zoug?
Ah, ça, je le dois, je pense, à ma bonne étoile. Parce que ma dernière année junior à Genève était remplie d'espoir. Quand on est jeune comme ça, qu'on a 18, 19, 20 ans, on a un peu cette naïveté et cette innocence hein, de la jeunesse. On se croit un peu, on est confiant et puis on se croit un peu invincible. Et j'ai eu énormément de bons retours hein, de Genève qui me disaient ouais, oui, on veut te garder, on veut te former, on veut que tu sois le junior qui passe pro, on veut que tu sois notre produit. Donc, trop cool, allez, il faut signer où ? Sauf qu'en plein milieu de la saison, blessure à l'épaule, exactement la même que j'ai eu maintenant. C'est exactement le même scénario. Donc là, je suis symétrique, hein, je suis parallèle. Donc j'ai eu la même blessure. Et quand on est blessé, c'est compliqué hein, dans le monde du sport de trouver du boulot. Parce que ce que je peux comprendre, hein, c'est le business. Ils ne veulent pas non plus investir et prendre le risque d'investir dans un jeune qui, en soi, ne connaissent pas vraiment dans le monde professionnel étant blessé. Donc, on arrive pendant l'intersaison. Moi, je dois me faire opérer. J'ai rien, j'ai pas de contrat, j'ai pas d'offre, j'ai pas de pige. Et puis, on arrive au mois de juillet et une place se libère à la Zug Academy. Donc, l'équipe B qui évoluait à l'époque en Swiss League, ouais, Academy. Et ça tombe bien, j'étais le dernier sur le marché. Hein, parce que, on est arrivé début mi-juillet. Donc, j'ai signé directement en disant, let's go, ça peut être une belle expérience. J'arrive là-bas et puis la rééducation s'est très bien passée, la reprise s'est très bien passée. Et puis, encore une fois, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu énormément de blessés du côté de la première. Et du coup, ils m'ont fait monter avec eux après 3 mois, donc le 17 octobre 2017, d'où mon numéro. Et depuis ce jour-là, j'évolue en Liga.
Donc le 17, c'est quelqu'un de très superstitieux, hein, Tom. Il l'a dit en plusieurs interviews, qui jouait avec les mêmes chaussettes tout le temps.
Je les ai changées.
tout arrive.
Je les ai gardées par contre. Elles sont dans mon placard.
Elles sont encadrées.
Ça ressemble plus à un chiffon, mais je les ai gardées. Ouais.
Sinon, t'as quelqu'un qui est assez superstitieux, qui a beaucoup de rituels dans la journée. C'est lui qui écoute beaucoup les mêmes musiques.
Oui, c'est ça. J'essaye un peu de me calmer avec ça, hein, parce que parfois ça peut tirer beaucoup d'énergie. Hein. Mais non, j'aime bien avoir le jour de match. J'ai mes habitudes, j'ai mes rituels.
La jambe gauche, toujours la jambe gauche.
Toujours la jambe gauche. Là, j'en ai découvert un autre. Mardi, lors du match, ça c'est pas... Bon, on a perdu, mais j'ai marqué mon premier but en 3 ans. Et puis en me déséquipant, je me suis rendu compte que j'ai mis mon bas de pyjama à l'envers.
Comme quoi ?
Donc je pense que demain, si je suis aligné, je vais mettre mon bas de pyjama à l'envers.
Voilà. Des fois, hein, l'importance des petites superstitions. Et puis t'as fait ton trou à Zug, hein, là-bas t'as joué 3 saisons. Comme tu l'as dit, t'as commencé en Swiss League avec l'Académie, t'es monté rapidement en National League. Tu pars après pour Berne, où tu fais 2 saisons. Là-bas, t'as remporté la Coupe Suisse.
C'est ça.
À l'Hallenstadion.
C'est ça, oui.
Condition particulière.
Très particulière.
Tu te
souviens ? Oui, on a célébré avec le zéro masque spectateur. Zéro spectateur et comment on appelait ça ? Le masque FFPS2. FFP2, sur la bouche. Donc les photos sont géniales. Mais l'arrivée à Berne, c'était les années Covid. C'était la première année Covid, la première année. Donc c'était assez particulier. Ouais. Jouer dans des grandes patinoires vides et puis tous les 2 mois, il y en a un qui est contrôlé positif. Les gars, désolé, hein, faut rester à la maison 10 jours. Bon, et puis après reprendre comme si de rien n'était. Mais de nouveau 3 semaines plus tard, un nouveau contrôlé. Allez les gars, c'est reparti, on va faire du vélo à la maison. Donc c'était assez particulier.
Avec le seul titre et la photo que t'as, c'est avec un masque FFP2, super. vous avez succédé au Hachargeois, dans ce palmarès de la Coupe Suisse, ce qui fait que logiquement, après Berne, t'es venu au Hachargeois. C'est ton collègue français du FO Zug qui t'avait donné envie de venir à Hachargeois, Johan Morand à l'époque.
Oh waouh, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il me parlait souvent d'Hachargeois. Ça a été son tremplin. Hein. Son tremplin pour s'imposer en Suisse et puis faire une très belle carrière comme il a.
Moi, puisque tu parles d'attachement, d'Hachargeois, je parle d'attachement, c'est justement le mot que j'allais utiliser, mais ce qui me frappe perso quand on a l'occasion de se voir ou de faire des interviews avec toi, c'est l'attachement que tu as pour notre région, pour ses supporters. Il n'y a pas une interview, je crois, où tu ne parles pas des supporters et de leur fidélité, que vous devez être, voilà, vous êtes redevable de cette fidélité et tu le martèles systématiquement.
Oui, parce que pour plusieurs points. Alors, par où commencer ? Étant à Berne, les fans sont assez virulents envers les joueurs si les résultats sont pas bons. Donc, des gestes menaçants ou même des insultes, bon, ça fait partie hein, des sports. Les fans aussi, ça peut être un défouloir pour eux. Mais ma relation avec les fans de Berne, ça a été un peu compliqué, quoi. Et en arrivant à Ajoie, je me suis dit, oulala, comment ça va être ? Sachant qu'à Ajoie, la proximité avec les fans est quand même assez étroite. Je veux dire, on arrive, nous, au match à la patinoire, on est parmi les fans. On veut aller s'échauffer à notre salle de muscu, on passe et on est parmi les fans. On quitte la patinoire pour rentrer chez nous, peu importe la porte qu'on prend, on est avec les fans. Et peu importe mes performances, qu'elles soient bonnes ou même mauvaises, parce que j'ai eu des moments où j'ai pas vraiment et j'ai pas du tout bien performé à Ajoie, j'ai toujours été très bien accueilli et très bien soutenu. Et donc ça, ouais, je le souligne, les fans ici sont top, ils sont présents. Ils ont parfois été agacés et frustrés par nos performances, et ça je peux le comprendre, mais ils ont toujours été présents, ils ont toujours été là le lendemain à chanter, à nous soutenir. Donc parmi les fans ici, je me suis fait des amis. Et donc voilà, c'est assez important de le souligner, c'est qu'eux nous apportent quelque chose. En échange, c'est réciproque.
Oui, Michel, tu parlais des interviews et de Thomas Thierry. Il est dans le milieu, comme on dit, un bon client, c'est-à-dire.
Un excellent client, oui.
On sait qu'après les matchs, si on veut chercher une formule choc, quelque chose, on sait que Thomas Thierry va faire le boulot. C'était encore le cas le mardi soir, là, avec quand tu dis que Zurich est passé, que vous êtes passé au travers du match et que Zurich est passé à travers vous. C'est des choses que tu travailles ou bien ça te vient comme ça? Tu as ce petit truc pour préparer un peu tes phrases?
Non, bah alors c'est à force, hein. Mes premières interviews, je bégayais, je tremblotais, je disais n'importe quoi. Donc à force, ça évolue. Et puis après, les gens qui écoutent les interviews, qui regardent la télé ou qui écoutent la radio, ils sont pas non plus stupides. Donc ils voient les choses. Et puis si j'étais à leur place, écouter et entendre les phrases bateau de toujours la même chose, ouais, c'est bon quoi. Il faut dire les choses parce que. On parle beaucoup dans la vie, dans la société, et puis surtout au hockey, dans le club ou sur la glace, la communication est importante. Donc parfois communiquer les choses, dire les choses, sans bien sûr divulguer des données ou des informations privées, c'est important quoi. C'est ce que la personne qui écoute recherche et puis attend d'une bonne interview.
La bande du jeudi.
On a parlé un peu de ton évolution, t'es venu à Chargeois, et puis l'actualité qui approche à grands pas, je pense que c'est celle que tu attends, un rêve de gosse, je pense, pour tout athlète, c'est les JO en Italie. Comment t'as appris cette sélection, et puis comment tu vois ce tournoi qui va arriver contre les plus grands joueurs du monde?
C'est parti, instant émotion. Moi, j'ai eu un appel avec l'entraîneur, donc le sélectionneur de l'équipe de France, Yorick Trail, au mois d'octobre. Où c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « Écoute, coach, j'ai un problème, je dois me faire opérer une deuxième fois. C'est pas top top. » Et en retour, il m'a dit « soigne-toi bien, fais ce qu'il faut, parce que je compte sur toi pour février. » Donc quand il m'a dit ça, moi, ça a été ça a pété dans ma tête, quoi. Je me suis dit « Punaise ». Après l'opération, trois jours après, j'étais de nouveau en salle de muscu en disant « il faut y aller ». Donc j'ai peut-être brûlé des étapes, j'étais surexcité, j'étais super content. Mais voilà, ça restait un appel téléphonique et des paroles. Et j'étais incertain à la compétition encore à ce moment-là. Donc je voulais y croire comme je voulais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc j'ai attendu... la liste officielle qui est sortie le 23 décembre sur les réseaux et puis officiellement par France Olympique et tout le comité. Donc j'ai attendu cette liste-là et puis avant de crier joie et puis de prévenir mes proches. Et c'est un post donc sur Instagram, je l'ai appris comme ça, où c'est plusieurs pages et on peut slider quoi. Et sauf que les noms sont répartis par ordre alphabétique. Donc T, bah, je suis dernier. Puis je fais défiler. Je fais défiler les pages, je vois les noms, je dis punaise, mais je suis où là-dedans? Et puis mon nom était l'avant-dernier des 25 joueurs. Donc j'ai eu la petite goutte de sueur, un peu la tremblote, et papillon dans le ventre, plein d'excitation. Et puis quand j'ai vu mon nom, bah, très très content. On a des carrières de hockey, il y a des bonnes choses qui se passent, il y en a des mauvaises, on peut enchaîner des bonnes choses comme on peut enchaîner des mauvaises. Et puis avec un peu toutes les galères que j'ai vécues récemment, je suis pas non plus un joueur star, quoi. Donc voilà, pour pouvoir jouer ici en Suisse, même à Ajoie, être dans le line-up, bah, et même en équipe de France dans les derniers championnats du monde, bah, il faut faire des sacrifices. Et puis parfois on ramasse pas mal dans la tronche. Et puis le nombre de fois où, oui, il faut le dire, j'avais bah, le moral est pas là. Et puis je me suis dit punaise, qu'est-ce que je fous là, cette envie d'abandonner, mais aussi cette envie de continuer, quoi, parce que je me dis que je pourrais peut-être ne pas soulever des trophées, être une star internationale, marquer des buts, être tous les trucs comme ça, gagner des millions, mais je pense que ma plus grande victoire, c'est le fait de ne pas abandonner et d'être sur cette liste.
Ah ouais, les Jeux Olympiques, c'est dans un petit peu plus d'un mois, l'équipe de France. Premier match, c'est face à la Suisse, hein, c'est ça, le jeudi. Ouais. Après, le vendredi, vous jouez les Tchèques.
Ouais.
Et le dimanche... un gros match contre le Canada, une expérience que tu vas partager avec trois de tes camarades du HC Ajoie aussi, hein, Pierre-Édouard Belmar, Antoine Keller et Kevin Bozon. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme, hein, par rapport à ce moment-là. Et puis comment tu vois ces matchs contre les grands noms du hockey mondial?
Facile.
On note.
Non, on s'est dit, hein, hier soir, oh là, je vous ai vu mardi soir.
On citait les noms, là.
Ouais, on te regarde jouer, puis batailler devant le but contre Zurich et Carafi. On se disait, dans pas longtemps, il sera face à McKinnon, Crosby, Celebrini. Ça va lui faire bizarre.
Oui, je pense. Ça va faire bizarre à mes chevilles, à mes hanches, à toute la vitesse qui va se passer autour. Mais c'est une bonne question parce que, bah, j'y pense, hein, et puis je pense que mes trois autres compatriotes, comme tout le reste de l'équipe de France, on pense à ça. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera face à eux? Et
concrètement, c'est quoi la grande différence, et tu devais l'expliquer, entre bah, les Malguines, Balcers et compagnie que tu as affronté mardi, et puis voilà, les meilleurs du monde?
Je pense qu'ils ne sont pas meilleurs du monde pour rien. Je pense qu'ils ne jouent pas en NHL pour rien. J'ai eu l'occasion de... On a eu l'occasion d'affronter deux, trois grands noms de la NHL pendant les championnats du monde. Et c'est assez marquant parce que, en termes d'efforts fournis, c'est plus puissant, c'est plus rapide, c'est plus précis. Et nous, on sortait de ces matchs-là complètement exténués. On essaie vraiment de tout donner. Et puis, on transpirait. Quand on regarde nos capteurs cardiaques, on est dans le rouge tout le long. C'est... on est fatigué. Et puis quand on les regarde, eux, à la fin du match, ils baillent. Et ils sont contents. Et c'est comme si c'était un match de gala, ils étaient sur un patin. Et c'est impressionnant. Et comment l'expliquer? Je sais pas. Peut-être que c'est le fait de traverser l'Atlantique. Il doit y avoir un grand triangle des Bermudes où on a un peu un même effet. Je sais pas ce qu'il y a. Mais est-ce que ça fait partie de leur culture, la façon dont ils s'entraînent, ce qu'ils mangent? Je sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Mais au sol, tous les hommes sont au même niveau. Et puis, aller à une compétition comme les Jeux Olympiques et puis les laisser jouer et puis pas justement se donner à fond, bah, ce serait leur manquer de respect. Et puis aussi à nous-mêmes et à la nation, manquer de respect. Mais le fait d'y aller sans penser au score, parce que ça peut terminer 10-0, 20-0 pour le Canada, comme pourquoi pas 2-1 pour la France. On sait jamais, donc c'est y aller, se transcender, donner le maximum et puis surtout prendre du plaisir.
Le débrief.
Ça fait déjà 6 matchs, hein, depuis nos dernières théories et ce constat quand même, hein, à part la raclée de Lugano, le HC a toujours été dans le coup pour gratter des points, mais voilà, le compte n'est pas bon avec ses 5 points seulement gagnés lors de ses 5 derniers matchs. Donc je suis là pour décerner les étoiles et une épine. Je me lance avec déjà 3 étoiles que je vais décerner à Damiano Ciaccio. Je suis presque obligé de lui offrir une nouvelle fois ces 3 étoiles. étoile, même s'il faut quand même le dire que mardi soir, il n'a pas forcément été à son avantage sur les numéros 3 et 4 de Zurich, mais Tchatcho, il a quand même joué 17 et 18 dernières périodes pour le HCR Joie, 17. Hein. Et c'est quand même une drôle d'histoire, Damiano, qui en novembre, rappelez-vous, a été clairement mis dans la bordure, repoussé en position 4 dans la hiérarchie des gardiens. On lui a même demandé durant une semaine de plus s'entraîner avec le groupe. Et aujourd'hui, avec les blessures de Patenaud, de Kelley et de Kons, il est le seul apte à jouer. Et j'imagine bien qu'il devra aussi continuer à aligner les parties. Donc, Tchatcho, je garde l'image impériale, notamment dans cette séquence de fou à Ambry, là, durant le deuxième tiers. Là. Il débarque, c'est un 3 contre 5, et puis il effectue des arrêts à foison, des gros arrêts, voilà. C'est une valeur sûre, et puis voilà, quand il joue sur la confiance, ça marche. Petit bémol, malgré les 3 étoiles, au final, comme on l'a déjà dit au début de saison, voilà, il lui manque toujours ce petit quelque chose, ce petit arrêt pour faire gagner l'équipe. C'est ce qu'on demande aussi parfois aux gardiens. Voilà, ça reste la finalité. Ajo a besoin de ce gardien qui fait gagner l'équipe sur cette parade décisive. 3 étoiles, Tchatcho, vous prenez ?
Je prends, il ne le fait pas à chaque fois, mais comme tu l'as dit, à Ambry, sur ce 3 contre 5, ben, je pense que c'est l'arrêt qui fait gagner le match au HCR Joie. Donc, sur ce match-là, il l'a fait. Et puis, moi, chapeau à Tchatcho, parce que revenir de où il était, un peu banni dans les tribunes, oublié des entraînements, ça montre simplement que c'est un grand professionnel qui adore encore le hockey, ça se voit. On voit que maintenant, sur la glace, il profite de chaque temps de jeu qu'il a encore. Et puis, il fait un gros boulot depuis qu'on l'a réaligné.
Ouais, chapeau à lui. J'abonde dans ton sens aussi. Et puis, tu dis effectivement que j'étais dans la critique comme toi un peu davantage que Yann en disant qu'on n'avait pas forcément les gardiens qui faisaient des points. Et je suis peut-être un peu plus optimiste que toi sur ce coup-là en disant que si on a gagné Ambry, je pense qu'il est vraiment très partie prenante. Et le point à Rapperswil, on le lui doit aussi en bonne partie, à mon avis, quoi.
Moi, j'aime beaucoup Damiano. Top class. Quand je suis sur la glace avec lui, il a toujours je l'entends toujours. Derrière, donc du coin de l'oreille, là je l'entends, il me parle, il est calme, donc ça a un côté rassurant aussi. Et j'y ai pensé hier soir, et puis je me dis c'est un des meilleurs gardiens avec qui j'ai joué, parce que il a ce côté rassurant, il a les mots justes, il communique sans stress, donc je le remercie pour ça.
On continue avec les 2 étoiles que je vais donner à Kien Sopa. Voilà, je voulais mettre en exergue son travail offensif. Voilà, j'ai peut-être l'impression de me répéter, mais voilà, sur cette séquence de 6 matchs, il est avec Nettinen le meilleur buteur du HCA, 3 réussites. Et puis, il a une implication dans le jeu offensif qui n'a pas grand-chose à voir avec le Sopa qu'on avait peut-être vu en début de saison, ou encore mieux la saison passée. Voilà, dans le dispositif de Greg Ireland, il y a de la place pour les patineurs, les attaquants capables d'amener de la vitesse, d'apporter le puck en zone adverse et de créer du jeu. J'ai écrit un petit peu comme toi, Johnny, maintenant. Mais c'est Thomas qui est avec nous, là. Bref, donc Sopa, c'est la valeur offensive suisse qui a su se mettre en évidence avec ce côté couteau suisse, puisqu'il est désormais actif dans le premier bloc avec Philippe, Michael Deveaux et Nettinen.
Oui, il a franchi un step, c'est clair et net. Et en plus, dans la régularité cette fois-ci, je trouve qu'il aligne vraiment les performances. Dans le jeu de puissance, il a cette aussi de qualité que tu viens de souligner, qui est importante, d'avoir ce calme avec la rondelle, cette étincelle avec la rondelle aussi. Donc je partage pour l'instant tes étoiles sur cette première partie.
Je partage également. Dommage, hein, on n'arrive pas à pas être d'accord, mais là, sur Sopa, on peut pas ne pas être d'accord. Il a prouvé, peu importe dans quelle ligne il est aligné, peu importe le rôle qu'on lui donne un peu cette année dans l'équipe, il répond présent partout. Powerplay, on l'a vu au Rapperswil, il a adressé une magnifique passe pour Phil Michael DeVos, qui se demande encore comment il a réussi. Il n'a pas réussi à marquer sur le coup, mais il est vif. Je pense que c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense ici, c'est je pense le meilleur attaquant à Joulo pour pouvoir porter le puck à travers la zone. Il a une vitesse puis la technique qui lui permet de le faire. Et puis cette année, il montre vraiment son plein talent.
Et c'est tout dit, hein. Il a fait un grand step en avant. C'est un gros travailleur et puis il en veut énormément. Et j'aime bien ce contraste parce qu'en dehors de la glace, c'est un peu un 2 de tension. Mais sur la glace, c'est un hyperactif et il se chamaille, il se bagarre, il en veut, quoi. Donc bravo à lui.
Et pour la dernière étoile, là aussi beaucoup d'hésitation. Je voyais des défenseurs. Moi, j'ai aimé mardi soir et Kevin Fay, Jonas Berthou, toi, Thomas. Là, on vous a vu avec des lancers à la ligne bleue qui ont à chaque fois amené les buts. Hein. Les 3 buts, c'était 3 lancers depuis la ligne bleue. beaucoup d'hésitation, mais je vais quand même donner cette coche à Anthony Onca, voilà, parce qu'il est toujours là, et puis que c'est le seul joueur du HCA qui a vraiment cette constance au fil des matchs, même si ça a été un petit peu moins bon sur ces derniers temps. Mais il a les qualités qu'on sait. Il a aussi parfois les défauts. Là, je vois la prolongation à Rapperswil où il a un petit peu accumulé la majeure partie du temps sur la glace. Ou encore mardi face à Zurich avec plus de 25 minutes de présence sur la glace. Attention à pas le griller. C'est l'atout numéro un, mais il est décisif aussi quand il a de la lucidité. Donc voilà, l'étoile pour Anthony Onca, un peu comme une lumière dans le ciel qui fait avancer le HCA.
Oh, magnifique, mais ça résume très bien. Effectivement, on devrait presque avoir une catégorie à part pour lui, parce que je crois que chaque semaine on le désigne, et là j'aurais bien mis une petite étoile perso à Roman Enghi, parce que je trouve qu'il fait un boulot remarquable, et il est tellement résilient, il accepte toutes les tâches qu'on lui donne, et il le fait plutôt bien, Matteo, je trouve, donc voilà. Mais Onca, oui, je partage totalement, que dire encore sur lui, si ce n'est effectivement qu'il faut faire attention à pas le griller. C'est un des joueurs les plus utilisés de la Ligue, et quand on voit la manière dont il patine, c'est grosso modo 25 minutes par match, c'est différent des Ed et Virtanen, qui sont davantage dans la gestion, lui, il est dans l'impact, dans le surnombre, dans la dynamique, tout le temps. Donc je pense que clairement, sur la moyenne de matchs joués, c'est le joueur qui donne le plus physiquement de la Ligue, donc voilà. Tant mieux si ça peut continuer comme ça, mais attention quand même au surménage pour Anthony Onca.
Puis l'étoile, ben, elle rayonne, comme tu l'as dit, sur toute la défense à Joulotte. Je trouve qu'il y a un step aussi qui a été fait par tous les défenseurs d'Ajoie pour trouver ces lignes de passe, puis amener des pucks au but. C'est quelque chose que je déplorais un petit peu les dernières années. On n'arrivait pas, souvent nos shoots de la bleue étaient bloqués, n'arrivaient pas sur le but. Et puis, on a maintenant beaucoup de défenseurs qui sont un peu plus mobiles à la ligne bleue, puis qui trouvent bien des lignes de passe. Et puis, c'est super important. Comme tu l'as dit l'autre soir, on a marqué des buts sur ces shoots de loin. Et puis, je crois que même quand on voit Valentin Pilet durant cette saison, ou ben Thomas depuis qu'il est aligné, il n'a pas encore eu beaucoup de présence depuis la blessure. Mais ben, le but, ça se résume aussi à ça. Hein. Tu participes à l'attaque, tu suis l'attaque, et puis tu prends un lancer... on va pas dire anodin, mais il est bien placé, mais voilà. Cette défense à Joulotte qui se projette en attaque, qui attaque maintenant à 5, ça amène beaucoup à Chajois.
C'est gentil, hein, merci, hein, parce que généralement, les défenseurs, voilà, on est un peu les travailleurs de l'ombre, et puis être cité comme ça, et puis oui, dire que Anthony Onca mène la barque, c'est vrai, quoi. Ce joueur est physiquement est impressionnant, hein. C'est un monstre, hein. Il a une condition physique qui lui permet de tenir et de sortir de situation, et puis même de relancer, donc c'est impressionnant. Je pense que Jésus l'a touché du bout de son doigt dans son berceau, parce que c'est comme un enfant, il s'amuse, il est là pour s'amuser, pour se donner à fond, donc... Bravo à lui aussi, puis au reste de la défense, quoi.
Bon, je vais aussi taper sur un défenseur pour l'épine. Hein, voilà, c'est un petit peu du classique, mais voilà, je vais la donner. Je crois que c'est pas la première fois. Hein, Niklas Freeman, voilà, toujours cette situation où la HCA n'aligne que 5 mercenaires. Puis on sait que c'est compliqué. C'est déjà compliqué de se présenter face au double champion de Suisse en titre avec un mercenaire de moins. Mais voilà, ce Freeman là, il a pas vraiment la carrure d'un importé, d'un joueur qui doit être dominant dans son secteur de jeu. Et face à Zurich, il fait pas son plus mauvais match. Ça, c'est clair. Il va chercher des shoots, mais voilà, quoi. Comme face à Berne la semaine passée pour son retour au jeu, c'était compliqué sur le 2-2 de Merella, je crois, là où il n'était pas vraiment dans son affaire, dans le slot, voilà. On voit qu'il est moins utilisé que des défenseurs comme Fischer, comme Fay ou comme Berthou, et voilà, quoi. Je me pose la question, depuis qu'il est là au HCA Joie, est-ce qu'on l'a déjà vu une fois rappelé pourquoi il était là, ses qualités de mercenaire, comme à l'époque des Leduc, des Gélinas ou des Brennan avaient réussi à le faire, quoi. C'est peut-être une comparaison qui fait mal.
Compliqué pour lui d'avoir été mis pas mal dans les tribunes, de ne pas réussir à trouver sa confiance. Dans ses attitudes, encore l'avant-dernier match à Porrentruy, je ne sais plus contre qui c'était, on le voit hésiter à aller sur un puck, reculer, finalement tomber au milieu de la glace. Et puis on a l'attaquant adverse qui se présente face au but. C'est vraiment des attitudes, c'est qu'on voit un joueur qui est en total manque de confiance, qui n'a pas trouvé sa place dans l'équipe. Et puis... il a été champion olympique, champion du monde, il a un palmarès énorme, donc des qualités il en a, mais c'est vrai que on les a pas vus malheureusement au HCA Joie.
Je crois que c'est toi, Rafi, qui a utilisé le mot mystère la semaine passée, ou enfin il y a deux semaines, pour qualifier effectivement cette dualité entre le palmarès du bonhomme et puis le ressenti qu'on en a actuellement. Je partage totalement, ça aurait été mon épine aussi. Il est en dessous, très clairement, de ce que n'importe qui doit apporter sur la glace. C'est dans les duels physiques aussi qu'il devait être un de ses forts. Il est battu hier aussi par des joueurs qui lui doivent pourtant des centimètres et des kilos. On voit qu'il n'est pas dedans, on voit qu'il se cherche complètement. Ça fait aussi de la peine. On n'est pas là non plus pour jeter 1000 pierres sur lui, parce qu'on sent qu'il a envie. Et je crois que plusieurs joueurs, et tu t'en témoigneras peut-être, c'est un des derniers, ce n'est le dernier qui part, le premier qui arrive à la patinoire. Il veut bien faire, mais voilà, ça ne prend pas pour l'instant.
Non, les derniers mots sont bien résumés. Hein. Il en veut, il travaille fort. Je pense que c'est un de l'équipe qui travaille le plus, que ce soit à la salle de musculation et sur la glace. Et ça, c'est, voilà, c'est à souligner et puis à mettre en valeur, surtout dans une équipe de hockey.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
On va se pencher brièvement, très brièvement, même sur un thème qui est d'actualité. On l'a dit, l'infirmerie du HCA particulièrement complète ces derniers temps, avec des joueurs qui vont manquer longtemps à l'appel. La question qu'on s'est posée cette semaine, c'est de savoir, est-ce qu'il faut aller chercher un 9e étranger, notamment pour pallier les blessures longue durée de Turkulainen, de Gauthier, voilà, le côté indécis aussi de la blessure de Belmar. Enfin, un petit tour de table entre nous trois, messieurs. Peut-être on commence à ma droite avec toi, Rafi.
Moi, je dirais oui, il faut aller chercher un étranger. Mais le problème, c'est que le timing est hyper mauvais, sachant que dans 3 semaines et demie, il y a une pause de 3 semaines. Mais le HCA Genève ne peut pas, décemment pas se présenter face à des équipes comme Zurich avec un atout en moins dans son jeu. Donc, on espère revoir très vite Belmar au jeu pour avoir l'addition à 6. Mais dans les circonstances actuelles, puis aussi pour voir plus loin, c'est-à-dire les échéances du mois de mars et d'avril, il faut aller chercher quelqu'un. Et je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu ce sixième homme déjà mardi face à Zurich.
Je rejoins totalement pour la préparation de fin de saison. On voit ce qui se dessine pour la Chargeois pour cette fin de saison, même si on peut rester optimiste sur un éventuel retour sur la 13e place. Ajoie devra préparer quand même une fin de saison quand même difficile, comme on l'a vécu ces dernières années. On a subi des blessures également les dernières années. Et puis, si on va se présenter pour jouer quelque part notre peau en National League, on doit être armé offensivement et puis on doit aller chercher un nouvel étranger.
Moi, je dis un grand oui aussi, non seulement parce qu'actuellement on évolue à 5, mais en plus on évolue à 5 sans, encore une fois, lui rejeter des pierres, mais avec Freeman qui pour moi ne compte pas comme un joueur d'apport étranger. Donc même si on devait avoir une rotation à 7 avec Belmar plus un 9e, on pourrait jouer avec Freeman en tribune. Je rappelle qu'Anus Baumer qui est en tribune, je rappelle que Peel n'était pas là mardi, je rappelle aussi qu'on peut mettre un Pouilly dans la rotation défensive. Bref, c'est pas là, à mon avis, actuellement qu'on a besoin, c'est aussi dans la production offensive. Et j'ai envie de dire actuellement, que ce soit un centre ou un ailier, je pense qu'on a besoin d'un nouvel import, aussi parce qu'on ne sait pas dans quel état Turkulainen va revenir, dans quel état Gauthier va revenir, s'il y aura peut-être une prolongation. 2 mois, ça fait fin février, début mars. Hein. Il n'y aura pas grande latence pour que ces joueurs-là rentrent dans le bain. Il faudra qu'ils rentrent dans le bain à 100%. Quoi.
C'est toute une interrogation qui est complexe, parce que là, on a quand même 2 centres qui sont blessés, qui sont Belmar et Gauthier. Donc, on peut se dire, le HCA a besoin d'un centre, mais derrière, tu le dis... Avec Onka, peut-être qu'il a besoin aussi d'un appui d'un mercenaire. Et puis l'interrogation Turkulainen du côté d'un ailier. Donc tu vas chercher un défenseur, un centre, un ailier.
Faudra voir un peu ce que le marché offre aussi. Puis peut-être, Julien Vauclair l'a dit, apparemment le marché est sec. Donc est-ce qu'on a vraiment le choix de choisir exactement ce qu'on veut? Faudra pas non plus choisir par dépit quelqu'un. Comme moi je vois l'alignement contre Zurich mardi, j'aurais plus envie d'un bon ailier qu'un centre, parce que des centres suisses, ça, on en a. Par contre, à l'aile, je pense qu'on a un petit déficit.
Dans l'œil de la vouivre.
Voilà, bon, on va terminer comme d'habitude, hein, en légèreté, avec notre quiz. 5 questions pour vous tout d'abord, messieurs. Et une supplémentaire, bien sûr, pour nos éditeurs. Déjà, vous êtes prêts? Ça a l'air.
Hein. On est bien, oui, on est concentré.
Je vais tenter en 2026 d'être meilleur qu'en 2025. Mais
bonne résolution. Alors la première, elle est pour toi, elle est facile, Yann. En guise d'échauffement, ces prochains matchs, comme souvent durant la saison, le HCA défiera plusieurs joueurs finlandais. Mais dans le championnat de Suisse, un seul participera au JO en compagnie uniquement de joueurs estampillés NHL. Qui est ce joueur?
Le numéro 44 de Zurich qui a marqué le deuxième but mardi.
3 points mardi d'ailleurs.
3 points, Mikko Lehtonen.
Je te dis, elle était facile. Même Yann a trouvé. Magnifique, ouais. Tu l'avais aussi, Thomas ? Voilà. Ça se corse un petit peu. Deuxième question. Le HCA n'est pas épargné par les blessures. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Quelle est l'équipe qui a aligné le plus de joueurs différents depuis le début de la saison ?
Allez, je vous laisse répondre là.
Moi, mon intuition, j'aurais dit Fribourg, mais on ne joue pas Fribourg ces prochains temps, donc c'est pas, ça ne sera pas Fribourg.
Pour info, à joie, 28 joueurs ont joué au moins un match avec le HCA cette saison. L'équipe qu'on cherche en a, a donné sa chance à 34 joueurs. Quand même.
J'aurais dit Berne.
Non, Berne n'est pas loin. Deuxième, 33. Le premier en a 34, c'est un des prochains du HCA aussi.
Bienne.
Non. Il y a eu beaucoup de problèmes en défense, en début de saison notamment.
Zug.
C'est Zug, ouais.
Mais ouais, c'est vrai que le problème des blessés, c'est un problème assez récurrent cette année dans pas mal d'équipes. Je ne sais pas ce qui fait qu'il y a autant de blessés ces derniers temps, mais le calendrier est aussi serré, peut-être que cette année de Jeux Olympiques est peut-être un peu responsable de ça.
Alors la troisième question, elle ne s'attarde pas sur un joueur blessé, mais un joueur qui carbure à plein régime, c'est André Pettersson, hein, le Suédois de Langnau, quatrième compteur de la Ligue. André Pettersson, on va s'intéresser à son passé. Il était le capitaine d'équipe en Suède, le HV71. Je vous passe le nom suédois, mais tout le monde connaît HV71. Il était capitaine donc d'un joueur qui était dans cette équipe aussi, qui est le frère d'un élément du HCA. De quelle fratrie est-ce qu'on parle ?
Leanka ?
Moi, j'aurais dit Nettinen.
Nettinen, oui. Ouais. Effectivement. Jonas Nettinen, 35 ans, aujourd'hui
tu vois
capitaine.
Que j'ai révisé un peu là, t'as vu ?
Alors, c'est là. Capitaine d'Ilves, je ne sais pas comment ça se prononce, Ilves en Finlande, aujourd'hui le frère à Nettinen. Quatrième question, le HCA a un bel esprit de sacrifice, ça c'est pas la première saison qu'on le dit, hein. 614 tirs bloqués depuis le début de la saison, 16,2 par match.
Kevin Fay.
Ouais, alors,
Thomas Thierry, avec la tête.
Il y a une équipe qui est tout le contraire du HCA Joie. Quelle est l'équipe qui a le moins de tirs bloqués, si on peut le résumer comme ça, le moins d'esprit de sacrifice ?
Bien.
Très juste, c'est Bienne qui n'a que 371 tirs bloqués, c'est 10 par match, ça fait quand même une sacrée différence entre 614 et 371. Et puis la dernière question reste chez le voisin biennois, habitué des matchs à rallonge, c'était le cas encore mardi à contre Davos, c'est une victoire au tir au but. Depuis le début de la saison, combien de matchs le HC Bienne a-t-il disputé au-delà du temps réglementaire ? C'est l'équipe qui en a joué le plus.
Thomas, on t'a pas beaucoup entendu là.
On va faire au plus proche.
Aucune idée, je dirais, premier qui vient en tête, le chiffre, 23 matchs.
Au-delà du temps réglementaire.
À Joie, c'est 7, ouais. Donc moi je dirais le double, 15.
J'aurais dit 12.
Moi c'est 11. Ouais. Et Bien se porte bien, Bien a bien travaillé le physique aussi, parce que Bien en a gagné 8, dont 2 contre à Joie d'ailleurs. Un au tir au but là-bas et un en prolongation à Porrentruy. La dernière question, elle est donc pour vous, chers auditeurs. Elle concerne notre invité du jour. Thomas Thierry a marqué donc mardi contre Zurich. Ça n'avait plus été le cas avec le HCA depuis 2022. Contre quel adversaire notre invité du jour a-t-il marqué ce but, donc le dernier avant celui de mardi avec le HCA, c'était en 2022. Rendez-vous sur rfj.ch, sur la page d'accueil ou sous l'onglet émission, vous pouvez retrouver notre formulaire de réponse. Et puis vous pouvez aussi envoyer votre réponse par mail à bdj@lqj.ch. Avant la trêve, on vous demandait combien de buts Kylian Motet avait marqué. Il en était bel et bien à 6, il en est à 7 aujourd'hui. Bravo à Hugues de Lajoux qui a trouvé la bonne réponse et qui recevra donc prochainement un cadeau aux couleurs de la bande du jeudi. Voilà, c'est le temps pour nous d'en rester là, de nous redire à dans 2 semaines. C'est là qu'on se retrouvera pour le prochain numéro. Merci Yann, merci Rafi.
Avec un petit mot pour dire aussi qu'on peut nous écouter à nouveau sur Spotify. Je crois que les petits désagréments techniques ont été...
C'est réglé, effectivement. Ouais, ouais. Voilà, tout va bien à présent.
Alors voilà, alors salutations à ceux qui nous écoutent sur Spotify.
Ouais, vous pourrez courir le vendredi matin en nous écoutant sur Spotify.
Plus d'excuses.
Plus d'excuses.
Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à notre invitation très tardive à l'ADER. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir remplacé, très bien remplacé d'ailleurs, Johnny Eisen.
Merci à vous, merci pour l'accueil.
La bande du jeudi.